Le porte-parole du ministère des Armées nous fait l'honneur d'une visite. Nous allons en profiter pour passer en revue les troupes présentes sur notre terre d'Occitanie. Elles sont nombreuses et se développent. De quoi cette tendance est-elle le signe? Nous lui poserons évidemment la question. Bonjour Hervé Grandjean.
Bonjour madame.
Un grand merci de votre présence dans nos studios ce matin. Merci de votre confiance aussi. C'est la deuxième fois que nous vous recevons. D'ailleurs, la grande muette qui sollicite la parole, puisque c'est vous qui l'avez sollicité dans les médias locaux, c'est pas l'idée qu'on se fait de l'armée. C'est important pour vous de communiquer, de faire de la pédagogie?
Oui, c'est important pour nous. Les armées, elles ont une mission qui est extrêmement importante, qui est de protéger les Français. Il y a des budgets significatifs qui sont alloués, notamment dans la loi de programmation militaire. Donc on considère que c'est un juste retour que d'informer nos concitoyens sur pourquoi on fait un effort de défense et qu'est-ce qu'on fait pour eux au quotidien. C'est la raison de ma présence aujourd'hui avec vous.
Vous nous le devez donc.
Quelque part, oui.
Quelque part, oui. Alors justement, si vous voulez faire de la pédagogie, j'ai une petite question, elle a l'air anecdotique, mais pourquoi le ministère de la Défense a-t-il été baptisé ministère des Armées?
C'était une décision du président de la République, donc il faudrait lui poser la question. Ça n'a pas changé le périmètre d'intervention ou les entités qui font partie de ce ministère régalien. Je pense qu'il y avait derrière l'idée de montrer à quel point ce ministère a une vocation éminemment régalienne, et donc c'était le sens de ce nouveau nom de baptême pour le ministère.
C'est le sens du nouveau nom de baptême. Alors Hervé Grandjean, vous êtes à Toulouse pour le Space Forum, c'est un événement organisé aujourd'hui à la Cité de l'Espace par nos confrères de la Tribune. Alors ici à Toulouse, hein, l'espace évidemment ça nous parle, mais on a plutôt tendance à l'associer à Thomas Pesquet, à des performances scientifiques. Il faudra donc dorénavant associer espace et armée, comment et pourquoi?
Le président de la République et la ministre, en 2018, se sont saisis du sujet. L'espace, pour le ministère des Armées, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que quand on fait des opérations militaires, je vais vous donner un exemple, quand on frappe des usines chimiques de Bachar el-Assad en Syrie en avril 2018, c'est l'opération Hamilton, on a un besoin impérieux d'espace pour avoir cet effet militaire et pour frapper ces usines. Alors ça se manifeste comment? Ça se manifeste d'abord par du renseignement, ça veut dire qu'on a des satellites d'observation qui prennent des photos des lieux sur lesquels on veut faire une opération militaire. Pendant que le raid aérien, puisqu'on a une dizaine de rafales qui ont décollé de France pour aller faire ces frappes, pendant le raid aérien, il faut communiquer avec nos avions de chasse, donc on a besoin de satellites de télécommunication. Et ensuite, en phase terminale de la mission, quand les missiles sont tirés depuis les rafales pour aller toucher les usines chimiques, eh bien ces missiles ont besoin d'être guidés, et donc on a besoin de satellites de géolocalisation. Donc si demain, on a ce qu'on appelle un déni de service, c'est-à-dire des satellites qui ne rendent plus le service pour lequel ils sont prévus, nos opérations militaires, quelque part, elles tombent. D'une part. D'autre part, ce qu'on a constaté, et c'est ce que la ministre avait dit dans son discours au CNES à Toulouse en 2018, c'est qu'on constate des menaces grandissantes dans l'espace, et elle avait notamment pointé du doigt une manœuvre inamicale d'un satellite russe qui s'appelait Louche Olympe, et qui s'était approché d'un peu trop près d'un satellite de télécommunication du ministère des Armées. Donc il y a un besoin impérieux d'espace pour la défense, il y a aussi un besoin impérieux d'espace pour notre économie. Vous, moi, tous les jours, on estime qu'on utilise entre 10 à 40 satellites pour notre vie de tous les jours, pour commander une pizza, pour réserver un taxi, pour regarder notre prochain lieu de vacances. Et donc, si demain, ces satellites sont empêchés, eh bien, c'est des pans entiers de l'économie française qui tombent. Et donc, c'est aussi la responsabilité du ministère des Armées que de protéger les Français.
C'est de la protection de notre économie numérique, en fait.
Exactement, exactement. Par exemple, si vous êtes agriculteur, que vous souhaitez surveiller la façon dont une maladie s'étend dans votre champ de petits pois, c'est un exemple réel que je donne, eh bien, vous faites appel à des services satellitaires. Donc, vraiment, l'espace, c'est quelque chose de très concret pour tous les Français.
Mais est-ce qu'il y a la guerre dans l'espace? Qu'il faille protéger les satellites, j'entends. Qu'il faille qu'ils fonctionnent, j'entends. Mais est-ce qu'il y a des hostilités entre les pays?
Alors, il y a des manœuvres d'espionnage, c'est ce qu'on avait dit. Il y a eu des essais de tir de missiles sur des satellites. Donc, les États-Unis, la Russie, l'Inde, la Chine ont procédé à ces tirs. Donc, ce sont des vieux satellites qu'ils ont détruits en tirant des missiles. Donc, oui, il y a des vrais... Il y a une vraie montée des tensions et des menaces dans l'espace. Et donc, la ministre, dans sa stratégie spatiale de défense, vise deux choses. D'une part, extrêmement bien connaître notre environnement spatial, c'est-à-dire avoir une cartographie très très précise des satellites. Il faut qu'on surveille encore mieux l'espace. Et une fois qu'on a une idée claire de ce qui se trouve dans l'espace, ami ou ennemi, il faut être capable de se défendre si on est attaqué. C'est un concept de défense active, c'est nouveau dans la doctrine française, ça veut dire que si on était attaqué, et seulement dans ce cas-là, on pourrait répliquer. D'où les différents projets que nous avons lancés. Alors, ce sont des exemples d'équipements, mais ils sont parlants pour tout le monde. Nous sommes en train de développer des lasers de puissance. Ce sont des lasers qui, soit depuis le sol vers l'espace, soit depuis un satellite vers un autre satellite ennemi, pourraient, on appelle ça l'illuminer, l'éblouir pour l'empêcher de s'approcher un peu trop près de nos satellites. Soit, un deuxième exemple, nous sommes en train de développer des nanosatellites qui seront des sortes de patrouilleurs, de guetteurs autour de nos gros satellites de télécommunications, par exemple, des sortes de gendarmes qui patrouillent dans l'environnement du satellite et si un ennemi s'approche, on le saura et on pourra prendre des mesures.
La France, elle a des satellites depuis un moment, c'est pas nouveau qu'elle ait des satellites. Ce qui est nouveau, c'est qu'il faille les protéger de démarches hostiles, c'est ça ?
Voilà, ce qui était le film Star Wars il y a 30 ans et qui était encore de la science-fiction, on le voit se matérialiser maintenant et donc on s'y prépare.
Et alors cette guerre dans les étoiles à laquelle nous nous préparons, Hervé Grandjean, je rappelle à ceux qui nous rejoindraient que vous êtes le porte-parole du ministère des Armées. On profite de votre passage à Toulouse pour faire un peu le point sur la situation. Cette guerre dans les étoiles, elle prend la forme notamment de l'institution à Toulouse, du centre de commandement de l'espace. En quoi il consiste ?
Alors, quand on veut avoir une stratégie spatiale de défense, quand on veut mener des opérations militaires dans l'espace, on a besoin d'opérateurs, on a besoin de militaires qui sont rompus aux questions de doctrine, aux questions d'entraînement, aux questions de matériel et aux questions de manœuvre des satellites dans l'espace. Donc Florence Parly a décidé d'instaurer à Toulouse un commandement de l'espace. Aujourd'hui, nous avons 30 personnes, 30 militaires qui sont physiquement dans les locaux du Centre Spatial Toulousain du CNES, qui sont en train de se former au contact de nos camarades du CNES à la manœuvre de satellites. C'est quelque chose de nouveau pour nous. Et ce commandement de l'espace, il va monter en puissance à Toulouse. On aura à peu près 450 personnes en 2025, dont le rôle principal sera, quelque part, de faire la guerre dans l'espace, si guerre il y a, ou en tout cas de s'y préparer.
Mmh. 5000 mètres carrés devaient sortir de Terre, vous nous l'aviez annoncé en février, les premiers coups de pioche ont été donnés.
Alors, ils seront donnés en 2023, les bâtiments seront livrés en 2025. Alors, il y a eu un peu d'inflation, mais c'est très positif depuis qu'on s'est parlé. Là, on est plutôt sur un projet de 10 000 mètres carrés de surface utile. Et en attendant, nos personnels seront logés soit dans des locaux du CNES, soit dans des structures modulaires qu'on va installer à partir de l'été à Toulouse.
Alors, on est à Toulouse, un écosystème douloureusement marqué par la crise sanitaire. Est-ce que cette ouverture, cette militarisation de l'espace peut ouvrir à notre économie, à notre activité économique, des voies de développement ? Qu'est-ce que vous avez comme lien avec l'activité économique locale, des entreprises locales ?
La raison de s'implanter à Toulouse, c'est parce qu'il y a déjà un écosystème qui est extrêmement vibrionnant en matière spatiale.
Bien
le
sûr.
CNES, bien sûr, Airbus, Thales et une myriade de PME, d'entreprises de taille intermédiaire.
Qui
vont tirer leur épingle du jeu et avec lesquelles on travaille déjà. Je vous ai cité le projet de nanosatellites qu'on est en train de développer avec Emeria, qui est une entreprise qui est basée à Toulouse, qui fabrique des nanosatellites, des entreprises de services comme Sirlinks, par exemple. Donc, vous savez, le ministère des Armées, il investit avec cette stratégie spatiale de défense 4,3 milliards d'euros. C'est absolument colossal, entre 2019 et 2025. Et donc, ça, c'est de l'argent concret qui va directement dans l'économie et une bonne part va profiter évidemment à des entreprises toulousaines.
Alors 400 militaires vont donc venir gonfler des effectifs déjà bien présents sur notre sol. J'aimerais qu'on passe en revue les troupes, si vous voulez bien me passer l'expression. Toutes les armées, je crois, sont présentes, rien qu'à Toulouse, m'a-t-on dit. Avec les familles, les militaires, ça représente à peu près 10 000 personnes. Il y a évidemment la présence historique de la 11e brigade des parachutistes, dont l'état-major est à Balma, Castelnaudary avec la Légion, mais il y a aussi Casse, Pamiers, Montauban. Quelle est la situation de ces troupes ? Ici, on me dit qu'elles sont dans un développement, une tendance à l'augmentation des effectifs.
Alors, elles sont évidemment dans un excellent état d'esprit parce que les missions sont nombreuses, parce que leurs missions ont beaucoup de sens et parce qu'on leur donne des moyens. Au niveau de la région Occitanie, on a 20 000 militaires qui sont implantés. Donc, si on compte les familles, ça fait 50 000 personnes. Donc, c'est vraiment un acteur absolument colossal, notre communauté de défense au sein de la région Occitanie. En termes économiques, si on prend les emplois directs, indirects, associés à cette communauté de 20 000 militaires, c'est à peu près 1 milliard d'euros. Donc, là aussi, c'est un poumon économique.
Un soutien important,
évident, qui est apporté par le ministère des Armées. Alors, vous avez cité la brigade parachutiste, effectivement, dont l'état-major est basé à Toulouse. C'est un peu le poids lourd avec la 6e brigade légère blindée, dont le commandement est à Nîmes. Mais la 11e brigade parachutiste, je pense que ça parle au cœur de tous les habitants de la région Occitanie, et puis peut-être de Toulouse en particulier. Il y a une dizaine de régiments et d'unités qui sont raccrochés à cette 11e brigade parachutiste, qui compte 10 000 hommes. 8 500 sont stationnés dans le sud-ouest, et cette 11e brigade parachutiste, elle a une capacité qui est unique en Europe, c'est de mobiliser extrêmement vite des parachutistes pour des opérations d'urgence. On est capable, avec cette brigade parachutiste, de mobiliser 650 hommes, 650 parachutistes capables de sauter où que vous vouliez dans le monde en 48 heures. Donc ça, c'est absolument, absolument unique. À Toulouse même, on a 3400 militaires, et c'est un flux qui est entretenu parce que les parachutistes sont des gens qui sont souvent jeunes, c'est un métier extrêmement exigeant comme chacun peut s'en douter, et donc tous les ans, on recrute 1200 à 1300 parachutistes qui viennent se former à Quélus, au nord de Montauban. Donc voilà, vraiment.
Et justement, vous citez Quélus, je crois que le camp de Quélus s'étend. Les effectifs du régiment d'infanterie de soutien logistique parachutiste de Toulouse sont également en croissance. La Légion est arrivée à Millau il y a trois ans. De quoi ce développement, cette montée en puissance des effectifs est-elle le signe? Est-ce que l'armée est plus que jamais sur le pied de guerre?
Il y a eu une volonté quand le président de la République est arrivé au pouvoir et que la ministre des Armées a pris ses fonctions, d'avoir une loi de programmation militaire qui soit ambitieuse. Donc il y a eu une volonté très nette d'augmenter les budgets, d'augmenter les effectifs. On a 6000 personnes en plus qu'on va recruter sur cette loi de programmation militaire d'ici 2025. Cette loi de programmation militaire, c'est 290 milliards d'euros sur les 7 années de la loi. Donc oui, il y a une volonté d'être capable de répondre aux menaces d'un monde qu'on voit de plus en plus dangereux.
Une urgence.
Une urgence parce que la France est une grande puissance militaire, doit le rester. On voit la montée en gamme d'un certain nombre de grandes puissances, d'États aussi de taille plus moyenne, mais qui ont des vraies stratégies de puissance. On peut penser à la Turquie, on peut penser évidemment à l'Iran. Et donc, il est besoin de se préparer à ce contexte de menace qui est de plus en plus prégnant.
Alors, la région, comme d'autres, n'a pas été épargnée par des lourdes pertes dans l'opération Barkhane. On pense et on se souvient avec émotion de la mort de 7 jeunes hommes du 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau. C'était fin 2019, on en avait parlé ici même. La semaine dernière, le président de la République a dit qu'il ne voulait plus d'intervention commune avec les armées maliennes. Est-ce que les soldats pourraient rentrer en France ?
Alors, il y a une situation conjoncturelle au Mali qui est celle que chacun connaît, c'est-à-dire un deuxième coup d'État quelques mois après le premier. Donc le président de la République a décidé de suspendre de manière temporaire et à titre conservatoire la coopération avec les forces armées maliennes. Ça ne veut pas dire que l'opération Barkhane s'arrête. L'opération Barkhane continue, simplement sans agréger les capacités militaires maliennes à ce stade. Et encore une fois, c'est quelque chose qui peut être revisité en fonction de la position du colonel Goïta, qui actuellement est le président au Mali. Évidemment, je vais avoir une pensée émue pour nos camarades qui sont morts au combat. Vous avez cité les 7 hommes du 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau qui sont décédés en novembre 2019 lors d'un abordage entre deux hélicoptères. On a eu en 2020 3 soldats morts pour la France au 1er régiment de hussards parachutistes, 2 en juillet, 1 en septembre suite à des explosions sur leur véhicule blindé, et un soldat du 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste mort lui aussi à Barkhane. Ces soldats, ils le savent en s'engageant, sont prêts au sacrifice ultime. Ils ont donné leur vie pour la sécurité des Français, parce que ce dont nos auditeurs doivent avoir conscience, c'est que cette guerre en bande sahélo-saharienne, elle est là pour protéger les Français. Qui se souvient, quelques mois avant le 11 septembre, de ce qui se passait en Afghanistan, ou qui en parlait? Pas grand monde. Avant les attentats de Paris en 2015, qui parlait de Raqqa et de la Syrie? Pas grand monde. Ce qu'on veut éviter en étant avec notre présence militaire au Sahel, ce qu'on veut éviter, c'est que cette bande sahélo-saharienne devienne un sanctuaire de terroristes. On voit qu'il y a une volonté d'expansion de cette menace terroriste, notamment vers le golfe de Guinée, et c'est absolument ça qu'on souhaite contenir pour éviter des attentats en France.
Et bien justement, un dernier mot sur l'insécurité, le climat prégnant, c'est un thème qui dépasse désormais les seules périodes électorales. Hervé Grandjean, ce sont des attaques terroristes, des assassinats aussi de représentants de forces de l'ordre. Que la guerre puisse avoir lieu chez nous, est-ce que c'est une éventualité à laquelle on se prépare dans les rangs de l'armée française ?
Ce que je peux vous dire, c'est que les militaires français, ils sont là, c'est leur mission première pour assurer la sécurité des Français. On a
la guerre chez nous, c'est possible ?
Ce qu'on a en ce moment, c'est 3000 militaires qui sont déployés dans l'opération Sentinelle, qui sont là pour lutter contre le terrorisme, contre de potentielles attaques terroristes sur notre sol. Ces 3000 militaires, ils pourraient passer en quelques jours à 7000 si la menace s'en faisait sentir. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que les armées sont prêtes à défendre le territoire national et à sécuriser les Français tous les jours. C'est le cœur de notre mission.
Est-ce que c'est une hypothèse ?
Les armées sont là pour parer à des menaces qui proviennent de l'extérieur. Donc moi, il ne m'appartient pas en tant que porte-parole du ministère des Armées de m'exprimer sur une menace intérieure qui relève du ministère de l'Intérieur. Ce que je peux vous dire, c'est que les armées, c'est leur ADN d'aider les Français et de prêter main forte en cas de grosses difficultés. Et c'est toujours ce qu'on a fait.
Un grand merci Hervé Grandjean de votre parole libre, assez libre. Vous êtes le porte-parole du ministère des Armées. Vous êtes à Toulouse à l'occasion du Space Forum qui va démarrer, je crois, dans une heure à la Cité de l'Espace. On ne va pas vous mettre en retard. Un immense merci de votre visite.
Merci beaucoup, madame.